Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, l'ouverture hier lundi ici à Kinshasa de la session inaugurale de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau provisoire présidé par le doyen d'âge Christophe Mbosso a été installé. Avec les deux moins âgés, ce bureau a pour, entre autres missions, de valider les pouvoirs des députés et d'installer le bureau définitif de la Chambre basse. Au Nord Kivu, de nouveaux affrontements, de nouveaux bombardements ont été enregistrés hier lundi dans les territoires de Masisi, après six autres la veille, qui ont fait un mort, quatre blessés ainsi que des maisons détruites. Dans la même région, des affrontements ont été signalés toujours hier lundi entre les rebelles du M23 et les groupes armés FARDC et les groupes armés et FARDC dans la zone de Karuba, Mouchaki et Bukombo en chefferie de Baoundé. L'invité de ce journal est l'inspecteur général des finances, chef de service. Jules Alinguete s'exprime sur la renégociation du contrat chinois passé de 3 à 7 milliards de dollars, la gestion du barrage de Lusanga ainsi que la responsabilisation des Congolais dans la gestion du projet Sicomine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Direction Assemblée nationale. Pour commencer, Christophe Mbosso, les doyens d'âge, Serge Bahati et Agé Matembo, les deux moins âgés, sont désormais respectivement président, rapporteur et questeur du bureau provisoire. Ils ont été installés hier lundi, conformément à l'article 114 de la Constitution. C'était au cours de la plénière inaugurale, présidée par le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des députés, d'élaborer et voter les règlements intérieurs de la Chambre basse et d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette première plénière? Des détails avec Michel Kifindangoy.
Après appel nominal, le secrétaire général a invité la nouvelle Assemblée nationale à 71% renouvelée à travailler efficacement pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Jean Gouvoulou.
337 membres sont de nouveaux élus, soit un taux de renouvellement de 71%. 61 membres sont du genre féminin, soit un taux de 13%. Exercés consciencieusement, ces missions peuvent notamment contribuer à asseoir la bonne gouvernance en vue d'améliorer les vécus quotidiens.
Après installation du bureau provisoire, le président Christophe Mbosso, le doyen d'âge, a rappelé les trois missions de son bureau.
Sera mis en place 26 commissions provinciales chargées d'examiner les dossiers de l'élection des députés nationaux. L'Assemblée nationale se prononcera sur la validité du pouvoir de ses membres.
Aussitôt après la validation des pouvoirs, une commission spéciale se chargera de l'élaboration du règlement intérieur qui sera voté par la plénière avant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, souligne Christophe Mbosso.
Le poste de Premier ministre comme celui du président de l'Assemblée nationale sont à la seule discrétion du chef de l'État, du chef du président de la République. Je ne suis pas candidat à rien du tout. Telle est la réaction du député national Vital Kamerhe hier lundi au Palais du Peuple où il participait à la plénière inaugurale de l'Assemblée nationale. Le président de l'UNC répondait à la presse sur les accusations portées contre lui par certains membres de l'Union sacrée de faire pression pour être nommé Premier ministre ou président de la Chambre basse. Ceci après la création au sein de l'Union sacrée de la Nation d'une nouvelle plateforme politique appelée Pacte pour un Congo retrouvé PCR dont il est parmi les fondateurs. Pendant ce temps, le bras de fer persiste entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville, réhabilité dans ses fonctions depuis quelques jours par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Dans une correspondance signée hier lundi et adressée aux différentes institutions dont la Banque centrale du Congo, Godin Poy, le président de l'Assemblée provinciale, écrit que le gouverneur réhabilité, Gentiline Ngobila, ne peut plus engager financièrement la ville de Kinshasa. Cela en vue de préserver les intérêts des Kinois, d'autant plus que, dit-il, Gentiline Ngobila est sous les coups des poursuites judiciaires. Au Nord Kivu, je le disais au sommaire, plusieurs bombes qui s'échangent les terrains sur les terrains des affrontements. Les belligérants dans le territoire de Masisi tombent sur les cités peuplées de Sake et Mubambiro, 27 à 30 km de Goma. Des nouveaux bombardements ont été enregistrés hier lundi après six autres la veille qui ont fait un mort, quatre blessés ainsi que des maisons détruites. Dans la même région, des affrontements ont été signalés toujours hier lundi dans la mi-journée entre les rebelles du M23 et les groupes armés et les FARDC dans la zone de Karouba, Mouchaki et Boukombo en chefferie des Bahoundé. Des détails avec Sifa Maguru.
Pendant la journée d'hier, les impacts des bombes et quelques dégâts matériels ont été enregistrés dans différents quartiers et dans les champs. C'est notamment à Kimoka sur l'axe Masisi-Kichanga, mais aussi au quartier Mayusa 1 et au quartier Bikali de Kimoka. D'autres sources affirment qu'une bombe est tombée vers Bweremana dans une concession sans exploser, alors qu'à Sake, une nouvelle maison a été détruite ce lundi. Heureusement, aucune victime humaine a déploré. Certains habitants que nous avons joints depuis Sake témoignent l'horreur vécue. La crainte qu'avons-nous, les habitants de Sake, c'est de voir les bombes lancées par l'ennemi côté M23 nous tombent dessus et blessent les gens. D'autres viennent des FARDC et qui n'atteignent pas leur cible et tombent dans les quartiers. Ça nous fait vraiment peur. Le gouvernement qui est notre défenseur et notre parent, qu'il nous aide à délocaliser les armes lourdes pour que l'ennemi arrête de faire tomber les bombes ici dans les quartiers de Sake. Les blessés sont au centre de santé ici à Sake. Ils sont à Kwa. La cité de Sake et les groupements de Kamuronza deviennent de plus en plus menacés à cause des bombardements, déplorent les acteurs locaux. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où les rebelles du M23 s'adonnent à des crimes graves et crimes contre l'humanité dans certaines régions sous leur occupation dans les territoires de Masisi et Rutshuru. De nombreux jeunes, dont des filles qui ont fui les recrutements forcés par ces rebelles et qui se retrouvent à Beni, affirment avoir été violés ou témoins oculaires d'exécutions sommaires de plusieurs civils. Martial Papimoukeba pour les détails.
Il y a 3 mois, celle que nous appellerons Georgette pour sa sécurité habitait à Bambo dans les Rutshuru. Elle dit avoir assisté à l'exécution sommaire de ses parents avant d'être elle-même violée par les rebelles du M23. Elle témoigne.
J'étais partie au champ avec mes parents. Les rebelles du M23 sont arrivés. Ils les ont tués pendant qu'ils me violaient. En arrivant à Rwindi, on m'a dit que je suis enceinte.
À Kishishe, les M23 a exécuté des civils dans des toilettes, confirmé de son côté Zawadi Kibuto.
Nous étions à Kishishe. Les M23 sont arrivés. Ils ont violé les femmes et ont pris des jeunes qu'ils tuaient dans des toilettes.
Anita Bonaruza, qui vient de fuir le village d'Intamugenga, déclare que le recrutement forcé des jeunes est aussi l'une des pratiques du M23.
C'était au deuxième mois. Les jeunes pointés du doigt par le M23 étaient tués. Ils recrutaient aussi de force des jeunes pour une formation à Kisiza et ceux qui refusaient étaient tués.
Les rebelles du M23 occupent plusieurs villages des territoires de Rutshuru et Masisi. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, en Ituri, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans plusieurs entités de la partie sud du territoire d'Irumu. Cela grâce aux opérations conjointes FARDC, armée ougandaise engagée contre les rebelles des ADF et d'autres groupes armés locaux, mais aussi au dialogue communautaire organisé par les autorités locales grâce à l'appui de la MONUSCO. L'administrateur du territoire l'a dit dimanche dernier à la presse à l'issue d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette zone. Il demande aux leaders communautaires de consolider ses acquis pour le développement de cette entité. Explication avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis une année que les forces conjointes ont lancé des opérations de traque des rebelles des ADF dans le sud du territoire d'Irumu, avec comme résultat la restauration de la paix dans une grande partie de cette entité. C'est par exemple dans les localités de Bayema Mitego, Tchabi, Boga ainsi que dans la chefferie de Basili où ces deux forces ont anéanti la quasi-totalité des bastions de l'ennemi. Dans la chefferie de Walendu Bindi, ces opérations ont permis aux nombreux habitants qui avaient fui les violences de ces inciviques de regagner leur milieu, déclare l'administrateur du territoire. Il estime à 70% l'amélioration de la situation sécuritaire dans son entité. Il ajoute que ces opérations se poursuivent en profondeur dans la forêt où l'ennemi s'est retranché. À cela s'ajoutent d'autres approches non militaires telles que les dialogues communautaires facilités par la MONUSCO qui ont permis la cessation des hostilités par les groupes armés locaux. Le colonel Siro Simba salue ces avancées et appelle les leaders communautaires à consolider ses acquis pour une paix durable dans cette région. La société civile d'Irumu salue les efforts des services de sécurité et de consolider cette paix. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La Société nationale de chemin de fer du Congo s'implique pour trouver des solutions rapides à la suite du déraillement d'il y a quelques jours à Benalika, dans le territoire de Demba. Une délégation de cette société venue de Lubumbashi s'est rendue le week-end dernier sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, et son équipe envisagent des travaux sur cette voie ferrée menacée sur toute la ligne par des têtes d'érosion. L'AFEC a également échangé avec cette délégation de la SNCC. Écoutez les explications de son vice-président, Jean Asaka, sur des propos recueillis par François Kadima.
Nous avions eu des assurances de la part du comité de gestion par le truchement de son DG, M. Moutombe, qui nous a rassuré qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour que cette situation soit décantée. Mais c'est une situation qui date de plusieurs années. Il y avait négligence au niveau de la SNCC, de telle sorte que la voie n'a pas été protégée. Et même il y a des constructions anarchiques tout autour du rail. Il y aura un comité qui sera composé de la SNCC, de l'Office des routes, de l'OVD, mais nous avions aussi demandé qu'il y ait aussi un ou deux membres de la FEC dans ces comités-là pour qu'il y ait transparence. Parce qu'il y a des fonds alloués par le gouvernement central pour essayer d'appuyer la SNCC dans ce sens-là pour accélérer ces travaux. Et même nous, au niveau de la FEC, nous avons décidé qu'il y ait un plaidoyer pour essayer de faire la pression au niveau du gouvernement central parce que c'est depuis plusieurs années que cette voie qui quitte Ilebo jusqu'à Kananga n'est pas aménagée.
Et puis, baisse du prix du litre d'essence en Boujimaï, dans la province du Kasaï-Oriental. Un litre d'essence coûte actuellement 5000 francs congolais. Pourtant, il y a deux semaines, un litre a coûté entre 5800 et 6000 francs congolais. Le président de l'Association des importateurs de produits pétroliers dans cette province justifie cette baisse par l'arrivée la semaine dernière en Boujimaï de plusieurs camions qui s'étaient embourbés sur la RN1, la route nationale numéro 1, axe Kananga-Boujimaï et Tsikapa-Kananga. Kalou Titenda, président de l'APICOR, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Pas passé, il y avait l'enclavement de la route Kananga-Boujimaï et voire même Kananga-Tsikapa. Alors, avec quelques camions qui se sont accroupés sur place, alors on a libéré la voie puisqu'il y avait un ravin à partir de Kananga-Boujimaï. Alors quand on a décanté le ravin, c'était sûr que tous les camions qui étaient au niveau de Kananga sont entrés. Mais quant à la baisse de prix, c'est à une courte durée, puisque l'état des routes ne nous permet pas. Nous sommes contents pour ça, puisque si vous partez à Lubumbashi, un litre de l'essence coûte 4500. C'est là où nous achetons le carburant dans les temps. Et cette fois-ci, nous sommes allés à Kinshasa, où nous achetons le carburant, précisément à Moanda. Alors c'est ainsi que le carburant revient un peu à un prix un peu raisonnable. Mais à Kinshasa, là, on vend les litres à 4000. Mais si vous faites les transports, ça va nous arriver à combien? Pour la vie des Boujimaï, le carburant peut être à 7 000, 8 500, c'est normal. Alors, ce sont les clients qui se réjouissent maintenant, pas nous les commerçants.
La journée mondiale de lutte contre la lèpre est célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Au sud Kivu, 55 cas de lèpre ont été détectés en 2023, composés majoritairement des hommes. Mais les femmes et les enfants n'étant pas épargnés. Même si la tendance est en baisse par rapport aux années passées, le Sud Kivu reste l'un des foyers de la lèpre en République démocratique du Congo. Le Programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose, PNLT, est appelé à renforcer la surveillance afin de prévenir la lèpre dans nos communautés, pense le docteur Freddy Birimbano, médecin coordonnateur du PNLT Sud Kivu. Il a été joint par Rachel Kiesembangu.
Le Congo est parmi les 4 pays au monde qui notifient le plus en moyenne. Le Congo notifie à peu près 3000 à 4000 cas par an. Et le Sud Kivu est l'un des foyers de la lèpre au niveau du Congo. Et nous avons eu dans le temps des sanctuaires, beaucoup de sanctuaires. Et au Sud Kivu, c'est dans ces sanctuaires que nous retrouvons des cas. Bien que la tendance est à la baisse, parce que si nous comparons les données des 10 dernières années, nous sommes passés de 100, une centaine de cas. Actuellement, pour l'année 2023, on est à 55 cas. La majorité, ce sont des hommes. Les femmes sont aussi affectées. Également, les enfants de moins de 5 ans, on compte 5% d'enfants malades. Mais qu'à cela le tienne, le programme continue à exister parce que, pas que éliminé, le programme est appelé de renforcer la surveillance, c'est-à-dire de rechercher les nouveaux cas, de prévenir de nouvelles infections, de traiter les malades qui sont dépistés et aussi de sensibiliser.
Actualité internationale.
Au Tchad, les soldats de l'armée de terre vont désormais percevoir une importante prime de risque. C'est ce qu'annonce hier lundi le chef d'état-major des armées dans le cadre de la redynamisation et de l'amélioration des conditions de vie. Et c'est à l'instar des forces spéciales qui en bénéficient depuis longtemps. Une mesure prise en vue de satisfaire tous les hommes en uniforme, selon les services de communication de l'armée tchadienne. Et puis une délégation togolaise est à Niamey, au Niger, depuis hier lundi, après l'annonce de la sortie de la CEDEAO. Conduite par le ministre togolais de l'administration territoriale, cette délégation a été reçue par les autorités de transition. Une discrète rencontre dont les contenus des discussions n'ont pas été dévoilés, mais peut-être une première tentative de médiation suite à l'annonce de la sortie de la CEDEAO du Niger.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'inspecteur général des finances, chef de service. Jules Alinguete s'exprime sur la renégociation du contrat chinois, passé de 3 à 7 milliards de dollars, la gestion du barrage de Lusanga, ainsi que la responsabilisation des Congolais dans la gestion du projet Sicomine. Jules Alinguete s'entretient exclusivement avec Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Jules Alinguete, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelles sont les grandes lignes de l'accord issu de la renégociation du contrat Sicomine?
La République démocratique du Congo va tirer 7000 km de route, soit l'équivalent de 7 milliards de dollars américains. Et ces 7000 km de route ou 7 milliards de dollars américains seront financés progressivement pour l'année 2024. C'est 624 millions de dollars qui seront débloqués. Le premier déblocage est prévu d'ici 10 jours. Le deuxième, dans les 300 millions de dollars, le deuxième déblocage est prévu au mois de mai 2024. Et par la suite, chaque année, la République démocratique du Congo va obligatoirement bénéficier de 324 millions de dollars pour financer les routes. Et ces 324 millions de dollars pourraient être au-delà de ces montants, atteindre de 400-450 millions de dollars en fonction de l'évolution des cours des minerais. Et donc, il faut retenir sur le volet d'infrastructure que cette année, nous pourrons avoir près de 650 000 km de routes à faire avec le projet Sicomine, et les années à venir, nous avions au moins 350 km de routes à faire chaque année.
Et en parlant des infrastructures, ça sera sur toute l'étendue du territoire national?
Oui, donc tout ce que nous savons, comme cette année, il y a près de 650 km de routes qui doivent être construites, donc on doit entamer le projet. Il revient au ministère des infrastructures, à la CGT et à l'agence de suivi des projets, de présenter les axes routiers qui vont faire l'objet de réhabilitation ou construction. Et lorsque ces projets seront présentés, la Sicomine va directement payer les entreprises qui vont faire ces routes. Les négociateurs ont voulu que les 7 milliards soient affectés exclusivement aux routes nationales. Et ça, c'est pour qu'on puisse avoir la possibilité de contrôler combien de kilomètres on a fait, au lieu de faire un sous-codage à gauche, à droite et tout. Donc on a voulu que cet argent soit uniquement pour les routes nationales. Vous savez, il y a une nécessité aujourd'hui de désenclaver les provinces. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'a dit lors de son discours d'investiture que sa détermination aujourd'hui est de désenclaver toutes les provinces afin de déclencher le développement de notre pays.
Monsieur Jules Anguengeti, si la partie chinoise n'a disponibilisé que 800 millions de dollars contre les 3 milliards initialement prévus pour la première entente, vous pensez qu'avec 7 milliards, ça va marcher?
Oui, vous devez tout d'abord savoir que ces projets-là étaient pratiquement mal négociés, et puis il n'y a personne qui suivait au fait les réalisations ou les accords. Nous disons toujours que les Congolais égarés ont rendu un très mauvais service au pays. Ce sont eux en réalité qui étaient derrière cette prédation. Quand on dit que la convention était déséquilibrée, ça c'est ce que nous lisons, mais en réalité il y avait beaucoup de Congolais qui vivaient de la convention Sicomine, qui se sont enrichis derrière, qui prenaient au fait beaucoup de prébendes autour de cette affaire de Sicomine. Maintenant là qu'on a renégocié, on a tiré les leçons du passé, et même pour des gens qui seront chargés demain de suivre tous ces projets, toutes ces personnes-là seront mises sous haute surveillance afin que la République démocratique du Congo rentre réellement dans ses droits.
Qu'est-ce que la partie congolaise offre en retour dans le cadre de ces nouvelles attentes?
Oui, il faut savoir dans ces projets étaient appelés minerais contre infrastructure. Donc la République démocratique du Congo a offert via la GECAMINE des permis d'exploitation des gisements, et il y a aussi des exonérations qui ont été accordées par la République démocratique du Congo à ces projets. Voilà en fait globalement l'apport de la République démocratique du Congo qui devait être en contrepartie compensé par les infrastructures dont nous devons bénéficier. Nous saluons pour cet accord l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dès que l'Inspection Générale des Finances avait publié son rapport, le chef de l'État s'en est approprié, il s'en est suivi des discussions sur les plans diplomatiques.
Monsieur Jolalinghetti, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, merci.
C'était notre invité Jules Alinghetti, inspecteur général des finances, chef de service, qui s'entretenait en exclusivité avec Jean-Marc Matouaki. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Hirung et mis en onde par Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.